We believe in humanity.
Nous croyons en l'humanité, dans la personne, dans l'humain. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre art, de manière générale, s'est fondé sur ces valeurs-là.
Les gens disent que chez soi, c'est là où se trouve le cœur. Et nous, on dit que son chez soi, c'est là où il y a la bandaison.
Ouais, bah,
j'espère
bien
que vous y croyez aussi. Hein.
Moi, j'y crois totalement, Gilbert, je vous rassure, c'est tout à fait le genre. Celle qui n'a pas d'érection dans cette émission, c'est la culture. Hein.
France Inter. Le best-of, Augustin Trapenard.
Gilbert and George.
Nous ne sommes que des sculpteurs humains. On se lève tous les jours.
Parfois, on va marcher.
Nous lisons rarement.
Nous mangeons souvent.
Nous pensons toujours.
Fumons modérément.
Aimons le bon temps.
Nous nous aimons la nuit.
Nous nous amusons.
Encourageons la vie.
Combattons l'ennui.
Au naturel.
Nous rêvassons.
Voyageons,
dessinons à l'occasion,
bavardons,
prenons le thé,
parfois fatigués,
parfois envie de danser,
philosophant beaucoup,
jamais critique,
sifflotant,
nous mourrons très lentement,
rions nerveusement,
saluons poliment,
et nous attendons que le jour se lève.
Ben, c'est toujours ce désespoir. Voilà, c'est pleurer pour ne, c'est rire pour ne pas pleurer. C'est le rire du désespoir. Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est pas la base d'un artiste?
Mais pour vous, ça a été un poids de faire rire? De savoir faire rire.
Non, j'ai toujours compris que c'était, j'ai vraiment ce souvenir à 5 ans de mes parents qui s'engueulent. Et j'ai été drôle à 5 ans et la paix est revenue. Donc c'est formidable,
À la paix, carrément.
Mais bien sûr, le rire, c'est fini, tac, ça détricote tout.
A paura di tutti.
J'ai peur de tout.
De tutti quanti.
De toutes les choses.
Du quotidiano.
Du quotidien. De la vie.
Si, ma.
Oui.
Poi c'ho delle paure più profonde.
Ensuite, j'ai des peurs plus profondes.
Dario Argento.
De ma partie, de mon côté sombre, qui me donne des visions folles, qui sont aussi des sujets de mes films.
Moi, je pense qu'en tout cas, le rôle des artistes, il doit pas juste s'arrêter à collecter ses droits d'auteur et prendre son chèque et partir. C'est la voix. Vous êtes la voix de ceux qui n'en ont pas, quelque part. Donc il faut pouvoir ouvrir sa bouche et dire des choses qui comptent.
Quand on fait nos œuvres, eh bien, on tient dans la main, par la main, le spectateur. On n'estime pas qu'on en sait plus que lui. On découvre tout ça ensemble.
Yes, we are not walking with what you call the rich people
on n'est pas du côté des riches dans le West End. Nous, on est là avec les clochards, avec les gens de l'East London.
We do have a incredible following amongst the disenfranchised.
Et puis même quand je pense aux artistes qui m'ont touché, qui m'ont bouleversé, c'est souvent des artistes qui ont essayé de changer le monde par leur musique.
Pensez à qui ?
Tous ces chanteurs qui, par leur texte, quand vous prenez la chanson de Bob Dylan, Blowing in the Wind, qui a bouleversé une génération de Noirs américains, alors que lui, c'était un petit blanc du Midwest. C'est dire comment la force de la musique peut aller loin et tout dépasser.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Je
Je crois que les femmes, parce qu'elles ont toujours été l'autre de l'histoire, en fait, dans les religions monothéistes, on a toujours parlé d'elles, et on a beaucoup parlé d'elles, mais on n'a jamais parlé avec elles.
Vous voulez dire que la pensée des femmes rabbins diffère aujourd'hui, du coup, de celle des hommes rabbins ?
Je ne suis pas sûre qu'elles diffèrent, mais je crois que tant que les femmes n'ont pas accès à l'exégèse, au savoir et à des fonctions politiques au sein de nos traditions religieuses, en réalité, tout le monde est pénalisé, y compris les hommes. Parce que c'est comme si les voix du féminin, c'est-à-dire les voix de l'autre, les voix qui ont été les voix cachées de l'interprétation du texte dans l'histoire, les voix de la périphérie, avaient été mises en suspens, comme si elles avaient été étouffées, éclipsées. Et moi, ma constatation, c'est que quand les femmes prennent part à cette discussion, qu'elles soient rabbins ou pas, prêtres ou pas, imams ou pas, mais quand elles prennent part à la discussion religieuse, c'est comme si le féminin était libéré chez tout le monde.
Mais elles n'ont pas le choix. On est obligé de s'adapter, c'est ce qui a en même temps fait notre force. On est obligé de composer avec ce qu'on veut bien nous donner. Mais du coup, c'est ce qui nous rend plus intéressantes.
Vous paraphrasez Virginia Woolf quand vous dites « Je voulais avoir ma chambre à moi ». Et pourtant, c'est la découverte d'un autre livre, « Les mémoires d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir qui a changé votre façon de percevoir votre avenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez ?
Je me souviens, je lis le livre et je me prends une gifle parce que je comprends qu'effectivement ma condition de femme, de future femme au foyer, future femme mariée, future mère de 10 enfants, elle n'est pas obligatoire en fait. Que ce que disent mes parents, c'est ce que disent mes parents, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et que à l'intérieur de moi, il y a ma propre vérité et c'était à moi d'aller la chercher.
Alors comment s'est orchestrée cette rébellion, Imani ?
Il y a des choses qui sont attendues quand vous êtes une chanteuse, oui. Surtout quand vous êtes lead, plus que on est plus exigeant, je pense, avec les femmes. Et oui, et j'étais aux États-Unis et les producteurs américains qui, eux, alors c'est encore pire là-bas parce que tout doit rentrer dans des boîtes hein, spéciales. J'étais une fille noire, je venais de la mode, donc en plus je devais faire du R&B et rien d'autre. Et on me disait, ça intéressera personne, les chansons tristes d'une jolie fille, ça intéressera personne.
Parfois les femmes, dans un monde très traditionnel, religieux, voient d'un très mauvais œil l'idée que d'autres femmes puissent accéder à ces fonctions. Parce que c'est comme si, de leur point de vue, à mon avis, ça remettait en question le rôle imparti qu'elles ont défini pour elles-mêmes, un certain territoire qui serait celui du féminin,
et qui
le territoire maternel.
Forme d'aliénation.
C'est-à-dire que c'est un territoire qui est aussi le mien parfois dans ma vie. Moi, je suis aussi une mère de famille. Je suis aussi, voilà, je peux me définir comme étant une épouse ou une mère, tout plein d'éléments qui font partie de ma vie. Simplement, je nie à quiconque le droit de dire que c'est le territoire exclusif de ma vie. Je considère qu'il y a des moments dans ma vie où je suis aussi autre chose. Et bien souvent, au sein des pensées religieuses, on nie aux femmes la possibilité d'être autre chose que cet éternel féminin, ce monde de l'intériorité, ce monde domestique, de l'épousaille et de la maternité.
Depuis le début de cette émission, je me dis que décidément, une comédienne, c'est peut-être d'abord une voix. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la voix, Muriel ?
Franchement, si je pouvais changer, mais il n'y a pas que la voix que je changerais. Donc, voilà, je crois que voilà, elle est collée à mes sketchs. C'est une musique aussi.
Je me souviens très bien, j'étais très jeune, parce que moi, j'ai une grosse voix depuis très longtemps. Ça doit être autour de la maternelle. C'est les adultes qui m'ont fait remarquer très vite.
Quelle réaction est-ce qu'elle suscitait, cette voix ?
C'était toujours oh, « Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse voix ? C'est quoi cette voix ?» Et donc, à force d'entendre ça, j'ai intégré que ma voix, elle n'était pas normale.
C'était une voix trop grave, une voix de garçon, parfois ?
Oui, c'était une voix de garçon, une voix d'ogre, une voix d'ours, on disait. J'avais tous les noms d'animaux. voilà.
Et comment est-ce que vous avez fini par l'accepter, cette voix, Imani ?
Ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps. Même parfois encore, je lutte avec elle pour des fois je me mets à pas l'aimer parce que j'aime pas comment ça sonne. Ça m'a mis beaucoup de temps. C'est vers la vingtaine où d'un coup je passe de la voix d'ogre à la voix sexy.
Je déteste quand je vois un réalisateur qui dit on a fait ce film, mais on s'est beaucoup amusé, on était tellement heureux. Mais c'est pas possible. On peut pas être heureux quand on fait un film.
Dario Argento.
On est pris par ce démon qui te prend, qui te porte, qui te traîne dans le film. Il n'y a pas de bonheur dans ces choses. Il y a seulement le désir de raconter, mieux, le mieux possible.
Je me punis un peu dans cette rigueur.
Parce qu'avant, c'était un lieu de contrôle, en fait, la salle.
Exactement. C'est-à-dire que pour faire de l'horlogerie, je sais où est la virgule, je sais où je respire, je sais tout tout, rien n'est laissé au hasard. Certains m'ont dit, voilà, vous vous ennuyez sur scène, c'est pas ça. Mais quand on travaille et qu'on veut, je pense que c'est mes parents qui me regardent pour qu'ils me disent après, c'est bien, t'as bien travaillé.
Ça exige une rigueur folle.
Oui, oui,
en fait,
t'as bien travaillé et puis t'es pas là pour t'amuser. Donc c'est bien, j'ai bien, mes parents ils sont contents, sauf qu'ils sont un peu morts quand même depuis pas mal de temps.
Oh, Muriel.
Donc si, ils sont un peu morts, je vous le dis. Non, ça c'est. Donc, je vais me donner enfin, et c'est maintenant ou jamais.
Qu'est-ce que vous avez fini par savoir ou par comprendre de votre cinéma à vous?
Mais j'ai compris que je raconte des histoires qui sont des histoires de mon inconscient, de mes rêves. Je raconte ces histoires un peu folles, des histoires qui ne m'arrivent pas, mais que j'imagine, que je rêve.
De quoi vous voulez à tout prix vous souvenir, vous? Qu'est-ce que vous ne voudriez jamais oublier, tiens?
Les sensations, les émotions, le cerveau ne m'intéresse pas beaucoup, ce qui se passe par le cerveau. C'est pas ma priorité, non, ressentir peut-être... Oui, d'être aimé, finalement, Annie vient de le dire, le cœur, ressentir encore ou la chaleur d'un rayon de soleil, ou voilà, mais des choses du niveau de sensations et des émotions.
J'ai eu l'impression de vivre avec beaucoup de fantômes, enfant, sans aucun doute, c'est lié à l'histoire de ma famille, et des absents, et une histoire très, très douloureuse, une histoire de survie, une histoire de déportation, qui a fait que très jeune, j'ai dû vivre avec le silence de l'histoire d'une partie de ma famille, le silence de mes grands-parents, qui parlaient pas, qui ne pouvaient pas parler de ce qui leur était arrivé, mais qui m'obligeaient sans doute, moi, enfant, à amorcer un dialogue silencieux avec eux. Et cet élément, on va dire, de ma vie, de ma biographie, là, je me dis souvent aujourd'hui qu'il a beaucoup à voir avec la rabbin que je suis devenue. C'est-à-dire le fait que dans l'exégèse et dans l'interprétation des textes, il y a toujours un dialogue avec le silence, la volonté d'entrer en conversation avec un monde qui ne parle pas mais qui attend votre lecture pour amorcer une conversation.
Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up until now. It's the light of day that tell me how. When the night falls, my loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. And I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, don't you wanna dance with me, baby? Oh, don't you wanna dance with me, boy? Oh, don't you wanna dance with me, baby? With somebody who loves me.
Je crois que cette idée de monde pluriel, elle m'est apparue très tôt dans l'existence face à l'absurdité des gens qui me demandaient et qui qui nous demande en permanence de choisir entre des univers. Vous voyez, parfois les gens, ils vous disent, ils vous posent une question comme si vous disiez, est-ce que toi tu crois plus à la poésie ou plus aux mathématiques?
Oui.
Et quand quelqu'un vous dit ça, vous percevez l'absurdité de cette question. Parfois, il y a une poésie des mathématiques ou quelque chose de mathématique dans la poésie qui nous fait comprendre qu'on habite plusieurs mondes. Et moi, ma vie, entre guillemets, religieuse, elle se nourrit de plein de mondes à la fois.